Je vous libère, Monsieur le Président.
Vous pouvez m'installer 5 minutes, pas quelque temps.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup.
Merci. Merci.
Entrons donc dans le vif du sujet, et nous allons le faire avec une série d'interventions sur le chapitre « Les chemins de l'eau et les effets du changement climatique » en regardant ces chemins de l'eau à différentes échelles. Et d'abord, à une échelle globale et régionale, à travers un bilan des flux du cycle de l'eau à large échelle, c'est cette fameuse question en particulier, eau verte, eau bleue, regardons et essayons de voir ce qu'il en est. Est-ce que la forêt est un obstacle à la ressource en eau ou une alliée à la ressource en eau? Et pour cela, nous allons écouter Claude Doucan de l'INRAE d'Avignon. Claude, vous avez 20 minutes pour exposer votre travail. Un véritable défi.
Oui, bonjour.
Alors, je vais essayer de voir
mon diaporama. Oui, donc Claude Doucan, je viens de l'INRA à Avignon. Moi, je travaille plus spécifiquement sur les problématiques de sol et les propriétés hydriques du sol en interaction avec les plantes. Et je ne suis pas là, ici, aujourd'hui, pour vous parler de ça, mais de quelque chose de beaucoup plus global, qui est en gros le cycle de l'eau, vu d'une version globale, c'est-à-dire à l'échelle du globe. Et de vous montrer un peu l'effet de la forêt là-dedans. Donc je ne vais pas, ça va être un exposé qui va être assez partiel, hein, je ne vais pas aborder toutes les questions, mais au cours de ces deux jours, vous pourrez y revenir. Est-ce que ça tourne? Alors le cycle de l'eau, c'est un concept que vous avez déjà tous entendu. Hein. Les premiers à s'être posé la question, c'est les Chinois, suivis par les Grecs. Et donc tout ça, ça remonte à quelques siècles avant Jésus-Christ, où il voyait déjà les problèmes d'évaporation, de condensation et de pluie. Il l'avait déjà envisagé dans une vision globale. Bon, évidemment, c'est des gens qui vivaient à côté de la mer. Alors ce concept de cycle de l'eau, il a évolué dans les années récentes, dans l'ère moderne, où on a compris des choses. On a pris en compte des choses qui sont le cycle profond de l'eau, hein, en relation avec la tectonique et le volcanisme. On s'est rendu compte que l'eau sur la Terre, elle avait varié en quantité au cours du temps. La quantité qu'on a actuellement est plus faible d'un quart par rapport au début de la Terre. Et enfin, ce qui est important actuellement, c'est qu'on prend en compte, on essaye de prendre en compte l'effet de la biologie et de l'homme sur ce cycle-là, qui ont une influence prépondérante maintenant. Ça tourne. Alors, c'est quoi le cycle d'eau? Alors, première chose pour évaluer le cycle de l'eau, c'est de savoir où est l'eau et quelles sont ses quantités, quels sont les stocks d'eau. Alors, il y en a un que vous connaissez tous, ça s'appelle l'océan. Il y en a un deuxième, c'est l'eau qui est stockée sur les continents. Et il y en a un troisième que vous connaissez ou que vous abordez pas forcément si souvent que ça, c'est l'eau qui est dans l'atmosphère. Donc, si on regarde ces différents stocks, ben, vous voyez que finalement, ben, l'essentiel de l'eau, c'est dans les océans, ça vous surprend pas. Le deuxième compartiment, c'est les continents, mais dans l'atmosphère, il y en a très peu, comparé aux deux autres compartiments, c'est des milliers de kilomètres cubes, alors je ne sais pas comment vous le montrer tout ça, mais cette eau dans l'atmosphère, elle est très importante. En fait, c'est elle qui va faire le lien pour l'eau à l'échelle globale, sur l'ensemble du globe, et relier tous les compartiments entre eux. Après, si on regarde au niveau continental, cette eau, en fait, il y a deux grandes masses d'eau. Il y a une eau qui est l'eau que j'appelle solide, c'est-à-dire stockée sous forme de glace ou de neige. Et puis il y a l'eau souterraine, c'est l'eau que vous ne voyez jamais en fait, mais que vous utilisez souvent. Et cette eau souterraine, finalement, au niveau des continents, ben, c'est quasiment moitié-moitié. Et tout le reste, si je continue, toute l'eau que vous connaissez, un peu plus, c'est beaucoup plus faible en termes de quantité. Si j'enlève les zones glaciaires et les eaux souterraines profondes, l'eau des fleuves, c'est 0,2%, quelque chose comme ça. L'eau dans les lacs et les barrages, c'est 19%. Le permafrost, c'est les sols qui sont gelés. C'est l'eau qui est dans les sols gelés des latitudes boréales. Alors, sur ce schéma, alors est-ce que ça marche ?
Ouais. Il y a quelque chose qui est marqué là, quelque part, humidité du sol. Et là, les nappes d'eau souterraines renouvelables.
Alors, renouvelable, ça veut dire que cette eau-là, elle circule. Ce n'est pas de l'eau qui est arrivée il y a 20 000 ans. C'est de l'eau qui peut circuler en quelques années.
Donc, vous voyez que
les incertitudes sur la connaissance des stocks, elles sont sur ces eaux qui sont comprises dans le sol. C'est les eaux que vous ne voyez pas. On a une grosse incertitude sur la connaissance de combien il y a d'eau, finalement, dans le sol, au niveau global, et combien il y a d'eau dans les nappes souterraines. Alors le cycle de l'eau lui-même, c'est l'échange entre ces grandes masses d'eau. C'est quels sont les flux qu'il y a entre ces grandes masses d'eau. Donc vous savez tous qu'il y a de l'eau qui s'évapore au-dessus des océans, qui va être transportée au-dessus des continents et qui va retomber sous forme de pluie. Donc en gros, c'est ça le cycle de l'eau vu d'une façon très globale. Mais maintenant, cette eau qui s'évapore au-dessus des océans, ben, en fait, elle retombe en grande majorité sur l'océan. Il n'y a que 10% de l'eau qui s'évapore sur les océans qui va arriver sur les continents. C'est sur cette eau qui arrive sur les continents, il y en a plus de la moitié qui va repartir sous forme d'évaporation dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'eau qui est évaporée par le sol et par les plantes. Et la grande majorité, enfin plus de la moitié de cette évapotranspiration, donc du repart, l'eau liquide repart vers l'atmosphère sous forme gazeuse, elle est assurée par les plantes en fait, et ça c'est la transpiration des plantes. Il y a à peu près 35% de ces précipitations, donc c'est ce qui arrive sur les continents, qui retourne à la mer, à travers le ruissellement des rivières et la sortie des eaux souterraines. Et vous avez environ 60% des eaux, si vous regardez les chiffres qui sont en haut, là, si j'arrive à prendre mon pointeur, vous avez 41 milliers de kilomètres cubes d'eau par an qui arrivent sur les continents venant des océans, et en puits, il vous en tombe entre 110 et 120 kilomètres cubes. Donc cette différence-là, en fait, c'est le recyclage de l'eau à travers l'évapotranspiration des végétaux. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'eau qui vient du sol, en fait, qui repart en évapotranspiration et qui est recyclée sur les continents au fur et à mesure que la vapeur d'eau est transportée sur les continents. Ça s'appelle le recyclage de l'humidité de l'eau continentale. Donc, une autre chose importante, dans ce cycle-là, il y a marqué recharge des nappes, infiltration, ruissellement. Donc cette eau, en arrivant à la surface, elle va pas seulement ruisseler, mais elle va aussi s'infiltrer dans le sol et elle va aller recharger les nappes. C'est vraiment fondamental, mais vous voyez que finalement, par rapport aux quantités qui sont mises en jeu par rapport à l'évapotranspiration, elles sont beaucoup plus faibles, globalement. Donc tout ça, c'est vrai, mais c'est vrai à une échelle globale, mais ça varie beaucoup suivant l'endroit où vous êtes sur Terre, hein, vous le savez tous. Donc c'est pas la même chose ici qu'en Amazonie, par exemple, hein, clairement. Donc ça, c'était sans l'homme. Si la diapo passe. Ça y est. Alors maintenant, avec l'homme. Eh ben, l'homme, lui, perturbe ce cycle de l'eau quelque part, à un niveau global. Il s'approprie l'eau. Il s'approprie quel type d'eau ? Ben, il s'approprie l'eau qu'il peut récupérer le plus facilement. Donc vous savez très bien que c'est l'eau qui va couler, l'eau des fleuves et des rivières, et l'eau des nappes souterraines plus ou moins profondes. Ce type de l'eau, ce type d'eau qui coule et que l'homme peut s'approprier, ça est appelé eau bleue, actuellement. C'est une distinction, c'est de l'eau facile à récupérer, entre guillemets, c'est de l'eau de ruissellement et c'est de l'eau des nappes. Alors, certains, dans d'autres domaines, dans l'hydraulique, vont appeler cette eau aussi bleue, mais c'est l'eau qui est effectivement utilisée et prélevée dans le milieu. Donc attention, des fois, on peut avoir deux, pour un même mot, on peut avoir deux utilisations différentes. Cette eau qui est utilisée par l'homme, elle est rejetée Elle est utilisée par l'homme, elle est utilisée en partie pour ses besoins quotidiens. Elle est plus ou moins polluée, elle est utilisée pour l'eau potable, elle est utilisée pour la vie quotidienne, elle est utilisée pour l'industrie. Cette eau qui est ensuite rejetée dans le milieu, sous une forme un peu moins propre, on va dire, de moins bonne qualité, ça c'est l'eau grise. Mais parmi tous ces prélèvements qui sont faits par l'homme, il y en a une grande partie, vous le savez, qui est utilisée pour l'agriculture, pour faire de l'irrigation. Ça dépend des régions du monde. Mais en gros, c'est au moins 70% de cette eau qui est prélevée, eau bleue qui est prélevée par l'homme, qui est utilisée pour l'irrigation. Qu'est-ce qu'elle est ? L'irrigation, c'est quoi ? C'est la détourner une eau qui coule pour la mettre dans le sol où elle est plus immobile. Cette eau qui est dans le sol, c'est celle qu'on va appeler l'eau verte, classiquement, c'est l'eau qui va être utilisée par la végétation. Donc cette eau verte, l'eau du sol, en gros, c'est celle qui imprègne l'ensemble de la surface de la planète et qui permet la vie, en fait. Donc vous pouvez voir les fleuves, si on fait une analogie avec un corps, cette eau bleue qui est dans les fleuves, c'est un peu vous faites l'analogie avec votre corps, c'est un peu vos vaisseaux sanguins, quelque part, ça va faire le transport à longue distance d'un certain nombre de choses. Par contre, vous savez bien qu'il n'y a pas que des vaisseaux dans votre corps, vous avez plein d'eau entre les cellules, ça s'appelle la lymphe, et c'est cette lymphe qui va vous nourrir. Et c'est exactement la même chose pour l'eau du sol, c'est elle qui va nourrir l'ensemble de la végétation et maintenir les fonctions de l'écosystème, en fait. Et donc, cet usage agricole des pluies, qui est transformé en eau bleue, que l'homme prélève pour aller faire de l'irrigation, ça représente à peu près 70% de toute l'eau qui est prélevée. Vous avez des chiffres en dessous, alors on le voit pas bien, mais en gros, c'est l'eau utilisée par l'homme, c'est un quart des précipitations, et c'est presque plus de la moitié de l'eau qui coule dans toutes les rivières du monde. Il faut s'en rendre compte des volumes que ça représente. Et que les deux tiers de cette eau sont utilisés pour aller sont détournés de leur cycle d'eau qui coule pour aller la mettre dans le sol, où elle va repartir vers l'atmosphère, en fait. Donc on change carrément le destin de l'eau. J'essaie de passer à la diapo suivante. Et alors, cette eau verte qui est si importante, avant, elle n'était pas du tout prise en compte. Donc cette eau qui est dans les sols, qui va alimenter les plantes et qui va repartir vers l'atmosphère, n'était pas prise en compte. Et cette image, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça, vous le voyez souvent, une fois par an au moins, c'est le dépassement des limites planétaires d'utilisation des ressources. Alors, ça paraît dans le journal au moins une fois par an. Ce qui est en vert, c'est on n'a pas épuisé les ressources. Donc vous l'entendez souvent pour les ressources qui sont liées à ce qu'on utilise aussi en agriculture, le phosphore et l'azote. Où on a dépassé depuis longtemps des choses raisonnables en termes d'intrants, en termes d'apport de fertilisants, de création de ces fertilisants. Vous entendez parler aussi beaucoup de biodiversité, de perte de la biodiversité à cause de l'utilisation du monde. Et avant, on prenait en compte l'eau, enfin l'eau douce, l'utilisation de l'eau, uniquement à travers l'eau bleue, c'est-à-dire à travers le fait que l'homme prélève de l'eau uniquement. Et donc vous voyez, là, on est à peu près à la moitié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas encore utilisé toute l'eau disponible sur Terre, heureusement, on est encore un peu de sécurité. Et récemment, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument prendre en compte, en termes de risque, cette eau verte, l'eau qui est dans les sols. Parce qu'on est en train de se rendre compte que cette eau verte, elle est en train de changer de nature assez radicalement, et que de plus en plus, on est en train de sortir de la zone de variabilité du contenu de l'eau dans le sol, historique, c'est comme le climat. On est en train de sortir de cette zone de variabilité qui existait avant pour avoir soit trop d'eau, soit pas assez d'eau dans les sols, dans beaucoup de régions du monde. Et c'est pour ça que vous êtes en train de voir là-dessus qu'on est en train de dépasser ces limites. Et tout ça, c'est lié, d'une part, au problème de déforestation, des choses qui vous intéressent peut-être, mais aussi, et donc, au changement d'usage des terres, en fait. Et donc ça a une influence assez globale, et en plus, évidemment, c'est une autre conséquence, quelque chose qui est lié à ça, c'est le problème de changement climatique, et vous en avez une très belle illustration l'année dernière, dont tout le monde se rappelle, Tout ce qui est en marron là-dessus, c'est les anomalies de teneur en eau du sol par rapport aux années précédentes, par rapport aux années normales. Anomalies qui sont négatives, ça veut dire qu'il y a moins d'eau dans le sol. Le sol est plus sec, voire beaucoup plus sec. Et ça, vous voyez que c'était au niveau mondial que ça s'est passé. Et ça, c'est lié au fait que les températures étaient en particulier beaucoup plus élevées. Ce n'était pas au niveau mondial au fait qu'il y ait moins de précipitations globalement, c'était plutôt lié au fait que les températures étaient beaucoup plus élevées. Alors, par rapport à l'eau, ça c'est des versions générales, mais puisqu'on va parler d'eau, il faut parler un peu d'hydrologie au sens large. Et finalement, quand on parle d'hydrologie, on parle d'une chose qui s'appelle le bilan hydrique ou le bilan hydrologique. Alors, pour faire un tout petit peu de maths, voilà une équation qui dit en gros, l'eau qui rentre sur une surface, au bout d'un certain, pendant un certain temps, ça va être égal à l'eau qui sort plus ce qui reste à l'intérieur, la variation du stock interne. Alors, désolé, il y a une erreur sur le PPT que je n'ai pas pu corriger avant, une faute de frappe. C'est pas moins Q, mais c'est plus Q. On va voir pourquoi, ce que c'est tout ça, rapidement. Donc, pluie, là-dedans, c'est les précipitations. C'est ce qui arrive dans le système. C'est le P, c'est la pluie. C'est les précipitations totales. Et on parle, en hydrologie, de millimètres. Vous savez tous que ce sont des millimètres. Quand on vous dit, il va pleuvoir aujourd'hui 10 millimètres, ça veut dire qu'il va pleuvoir 10 litres d'eau par mètre carré. Et toutes les unités sont exprimées en millimètres en hydrologie. Quand on divise par la surface, la quantité d'eau qui arrive. ET, là-dedans, c'est l'évapotranspiration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évapotranspiration, c'est la somme de deux choses. C'est la somme de l'évaporation et de la transpiration des plantes. L'évaporation, c'est l'évaporation de l'eau du sol, l'eau qui part sous l'effet du rayonnement solaire et de l'énergie solaire sous forme vapeur à partir du sol. Et c'est l'eau aussi, quand il pleut, et c'est important dans les forêts, qui est intercepté par le feuillage, donc l'eau qui est stockée dans les feuilles et qui repart sous forme d'évaporation. La transpiration, c'est l'eau qui est prélevée dans le sol elle-même par les plantes. Elle est prélevée à travers les racines, elle passe par la plante, elle est évaporée au niveau des feuilles, ça c'est la transpiration, et c'est là où est régulée, en fait, quelque part, c'est la plante qui va réguler le plus ou moins d'eau qui sort, ça vous aurez plein de choses là-dessus aujourd'hui, je pense. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans un climat humide, l'évapotranspiration, elle est limitée plutôt par ce qu'on appelle la demande climatique, la demande évaporative de l'atmosphère, tandis que quand on est dans un climat sec, comme chez nous, la plupart du temps, l'eau, la transpiration, elle va être limitée, ou l'évapotranspiration, elle va être limitée par la quantité d'eau qu'il y a dans le sol, et l'accès à cette eau, en fait, les flux. Q, c'est le ruissellement, c'est les écoulements. Et donc c'est tout ce qui va sortir sous forme d'eau qui coule au niveau de la surface qu'on considère. Et le fameux delta S, c'est la variation du stock d'eau dans le sol et dans les nappes. Pendant ce temps-là, j'ai de l'eau qui va être stockée dans mon milieu, dans le sol, ou déstockée d'ailleurs, dans le sol et dans les nappes souterraines. Le stockage dans les nappes, ça s'appelle, c'est l'infiltration dans le sol, et c'est le drainage en particulier qui est important. Vous me direz aux 5 minutes. Donc tous ces termes-là sont du bilan hydrique, sont impactés par la présence de la forêt, en fait. C'est ça que vous verrez au fur et à mesure, que ce soit les pluies, l'évapotranspiration, le ruissellement ou le variation de stock, tout ça c'est impacté par la présence d'une forêt ou pas. Alors, l'évapotranspiration des forêts, au sens global. Pour aller vite, ce qui est le plus important, c'est que les forêts, par rapport à des cultures, c'est que c'est des racines qui vont extrêmement profond. Et que ça peut aller prélever de l'eau à des grandes profondeurs, finalement, par rapport à des cultures, voire aller jusqu'à la surface des nappes. Et donc, globalement, par rapport à des cultures, sur les figures que vous voyez là, c'est que, à un niveau mondial, dès que vous avez une forêt, vous avez possiblement plus de transpiration, plus d'évapotranspiration. Ça, c'est un fait. Voilà, vous allez trimballer plus d'eau du sol vers l'atmosphère quand vous avez des forêts que quand vous avez des cultures. Et là, vous avez un exemple de ce que ça peut être une culture par rapport à une forêt chez nous, là, du côté, par exemple, dans le sud-ouest, avec du blé ou du maïs, alors sachant que le maïs est irrigué. Mais vous voyez qu'une forêt, en gros, ça peut transpirer plus d'eau qu'une culture. Pour ce qui est des écoulements, des flux d'eau, quelle influence ça peut avoir ? La vision qu'on avait là-dessus, c'est qu'en général, quand il y a de la forêt, on pense qu'il y a moins d'eau qui va passer dans les rivières. Ça fait baisser les débits. Ça, c'était la vision qu'on a en général, parce que ben justement, ça transpire plus une forêt. Ça permet l'infiltration et ça diminue le ruissellement. Donc ça augmente le stock d'eau dans le sol qui peut être reprélevé ensuite par les forêts pour augmenter l'évapotranspiration. Et on trouve des choses comme ça, où ça, c'est le pourcentage d'eau, le pourcentage de surface qui a été forestée ou déforestée, et c'est le changement de la quantité d'eau qui va ruisseler, le débit du fleuve, si vous voyez. Donc au plus il y a de forêt, au moins il y a d'eau, en gros, de variation d'eau. Ceci dit, ça c'est challengé maintenant. C'est parce qu'on a fait tout ça sur des petits bassins versants, et par contre, à plus grande échelle, quand on regarde ça à l'échelle continentale, on commence pas à voir ça. C'est-à-dire que finalement, cet effet sur les débits n'est pas si évident. Et c'est là où il y a beaucoup de controverses, en fait, maintenant. Je vous montre juste un exemple d'une étude qui a été faite il y a très peu de temps, là, où on s'est dit, tiens, ben, si on reforestait toute la planète, aux endroits où c'est possible, ça c'est la carte des potentiels de reforestation, sans empiéter sur l'agriculture ou l'urbanisation, sur l'état actuel du monde. Et ça, c'est le résultat de calcul pour dire ben, quelle est l'influence sur les rivières, sur l'eau disponible pour les écoulements. Donc plus c'est rouge, au moins il y a d'écoulement. Au plus l'eau, la forêt a transpiré, elle a enlevé de l'eau pour les rivières, si vous voulez. Et en haut, le premier graphe, c'est sans recyclage atmosphérique. C'est le fait donc qu'on recycle de la vapeur d'eau au-dessus des continents, qui va pleuvoir plus loin, et qui n'est jamais pris en compte, ça, dans nos petits modèles de petits bassins versants. Et en bas, c'est avec le recyclage atmosphérique. Alors vous voyez que sur la figure d'en bas, il y a plus de bleu, et c'est moins marron. Ça veut dire finalement que cette influence globale des forêts peut, sur les cours d'eau, sur l'écoulement, sur l'eau disponible, sur l'eau bleue, si vous préférez, être moins dramatique à une échelle globale que ce qu'on pensait. À une échelle locale, ça peut avoir des effets, mais à une échelle globale, c'est pas si évident. Donc ça, c'était juste pour illustrer le fait que ça, c'est les débits dans différents bassins. Là, vous voyez bien que finalement, c'est moins. Il y a même des débits qui sont positifs. On peut même avoir plus d'eau avec des forêts. Bon, ça, c'est des calculs. Et ça place un débat, en fait, sur cette question-là. Sur les nappes, c'est pareil. En général, ce qu'on dit, c'est que comme ça transpire plus, une forêt, que ça peut aller jusqu'au toit de la nappe, donc prélever de l'eau par rapport à la nappe, et que ça diminue donc le drainage du sol à la nappe, donc il y a moins d'infiltration vers la nappe. Donc une chute de la recharge quand il y a des forêts. En fait, là aussi, on est en train de revoir ça. Et on se pose des questions sur est-ce que c'est toujours vrai ? Le paradigme actuel, c'est qu'en fonction de la couverture forestière, au plus vous avez de forêt, au moins vous avez de recharge. Et en fait, il est tout à fait possible, suivant les endroits, je parle à un niveau global là, mais que suivant les endroits, il y ait une sorte d'optimum par rapport à la couverture forestière, par rapport à la recharge de la nappe. Et ça, c'est dû de nouveau au fait que les arbres, c'est pas des cultures, ça a des racines qui sont extrêmement grandes, qui sont capables de redistribuer l'eau dans le milieu. Donc il y a une sorte de changement d'idée quand même au niveau de la communauté par rapport à tous ces processus qu'on pensait un peu inscrits. Et je vais terminer vite avec la pluie. Je suis dans mes 5 minutes finales. D'accord. Avec la pluie, où je vous ai dit au départ, finalement, l'eau océanique qui arrive, c'est une partie de l'eau qui va faire la pluie sur les continents. Mais ce n'est pas uniquement cette eau-là, il y a un recyclage de l'eau du sol contenue sur les continents qui va aussi créer de la pluie à travers la transpiration des forêts, des cultures et de la végétation. C'est ce qu'on appelle le recyclage continental de l'eau, qui représente à peu près 50% au niveau global, à 60% des pluies. Et ça, c'est plus intense au niveau des forêts. Ce recyclage-là, il est plus intense au niveau des forêts. Ce recyclage, il est de l'ordre de 70 à 90% sur toutes les forêts tropicales. Et ça a un effet régional, transfrontalier, c'est un effet plus que régional, c'est-à-dire que ça dépasse les frontières, ce recyclage. Le fait qu'on transpire d'un côté, je vais faire de la pluie de l'autre côté, c'est un effet global qui dépasse de loin certains pays. Alors évidemment, c'est montré surtout pour les grands bassins, là où il y a beaucoup de forêts, où c'est tropical. Et là, l'exemple qui est donné, là, c'est que par exemple, dans une région qui s'appelle le Rio de la Plata, il y a plus de 70% de l'eau qui vient, en termes de pluie, qui vient du bassin de l'Amazonie, alors que lui-même n'est pas en Amazonie. Et ça, c'est un effet régional, enfin, une grande région quand même, qui est très souvent négligé. En tout cas, chez les décideurs ou chez les gestionnaires de l'eau. C'est des choses qu'on ne voit pas, enfin, qui sont mal quantifiées. C'est-à-dire que si vous déforestez dans un coin, vous allez avoir moins de pluie d'un autre côté, eh ben ça, dans notre pays, à proximité, autant on le fait pour les fleuves, autant on ne le fait pas pour la pluie et pour la forêt. C'est mal pris en compte. Alors, il y a évidemment beaucoup d'exercices de modélisation climatique, voilà, et dont certains sur la déforestation, qui montrent qu'à grande échelle, des déforestations telles qu'elles sont engagées d'ailleurs, hein, les problèmes de déforestation à grande échelle, peuvent réduire les pluies dans d'autres régions où il n'y a pas ces forêts-là, jusqu'à 30%, ce qui est énorme. Alors, cet effet forêt, il est dû évidemment au fait que les forêts, elles transpirent plus que des cultures ou que du sol nu. Il y a plus forte évapotranspiration, donc plus d'eau dans l'atmosphère à cause de cette eau, donc plus d'humidité qui va favoriser les pluies. Mais c'est aussi dû à des choses qui sont spécifiques aux forêts, qui sont l'émission d'aérosols et l'émission de composés organiques également, qui agissent comme des noyaux de condensation pour la pluie, qui sont beaucoup moins forts pour les cultures. Quand vous remplacez la forêt par des cultures ou des prés. Et dernière chose, les forêts font baisser. Il y a des indices qui nous disent que les forêts peuvent faire baisser la variabilité temporelle des pluies. Ça stabilise un peu les pluies. Vous savez que les pluies chez nous, c'est très erratique. C'est très concentré dans le temps. Dans la plupart des pays, ça varie très fortement suivant les mois et suivant les années. Et bien, les forêts peuvent stabiliser un peu ça. Là, c'est juste deux exemples. Alors, j'avais pas beaucoup d'exemples de forêts méditerranéennes. Je vous en montre juste un là, si j'arrive à appuyer. Ça, c'est le coefficient de variation des pluies, c'est mensuel, c'est-à-dire si les pluies varient beaucoup ou pas. Et en bas, c'est la fraction d'eau qui arrive des pluies, la fraction de pluie qui arrive des forêts. Donc, au plus vous avez de pluies qui arrivent des forêts, au moins vous avez une variabilité mensuelle des pluies. Et c'est même vrai, alors c'est même vrai, c'est une façon de parler. Aïe. Bon, j'y arrive pas. Alors à gauche c'est tropical, à droite c'est méditerranéen, c'est les forêts méditerranéennes. Bon, il y a un semblant. Bon, il y a beaucoup moins de forêts en Méditerranée, manifestement. Bon, il y a un semblant aussi d'effet de la forêt méditerranéenne sur la variabilité, la chute de variabilité des pluies. Et finalement, il n'y a pas que le recyclage atmosphérique de la vapeur d'eau. Ces 10 dernières années, on s'excite beaucoup de tout, de quelque chose qui s'appelle un effet biologique d'aspiration, quelque part, de la vapeur d'eau des océans vers les continents qui sera accentuée par les pluies. Donc, avec la présence des forêts. Et ça vient de constats qui sont marqués là. Ce qui est en vert, si j'arrive à appuyer là-dessus. Ça, c'est des profils de pluie de la mer vers l'intérieur des continents où il y a marqué ABC. A, B, C. Et ça, c'est des profils de pluie qui vont de la mer vers les continents où il y a marqué D, I, etc. C'est les autres. Ce qui est vert là, c'est des endroits où il y a beaucoup de forêts. Bon, évidemment, vous avez les forêts équatoriales et tropicales là. Là, c'est les forêts boréales. Et là, c'est que des prairies et des cultures, par exemple. Et vous voyez qu'en jaune, donc, où là où il y a des prairies et des cultures, au fur et à mesure que vous enfoncez dans le continent, vous avez de moins en moins de pluie. Donc c'est lié à cet effet de recyclage continental. Et vous voyez qu'à l'intérieur, là où vous avez des forêts, des grandes forêts, ben vous avez un maintien de la pluie. C'est ce qui est illustré ici aussi à droite, sauf de façon un peu plus... où on voit un peu mieux. Ça, c'est la pluie océanique, et ça, c'est le continent. Dès que vous êtes au-dessus du continent, en été, ben, vous avez une espèce de maintien de la quantité de pluie, ça, c'est en zone boréale, mais en hiver, par contre, ça chute par rapport à l'océan. Et ça, c'est aussi expliqué en partie, non seulement par le recyclage, mais par le fait qu'au-dessus des forêts, le fait qu'il y ait beaucoup d'évapotranspiration, quelque part, le fait qu'il y ait beaucoup d'évapotranspiration au-dessus des forêts, quelque part, oh là là, je suis revenu à... C'est bon, sauf que j'arrive pas à revenir au départ. À la fin, plutôt. Voilà, j'ai fini, c'est quasiment fini. On va y arriver. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce genre de schéma, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Le fait qu'il y ait beaucoup d'évapotranspiration près de la mer, avec une forêt, finalement, ça refroidit, compacte un peu l'air, si vous voulez. Ça crée des zones de dépression au-dessus de la forêt. Et si on a une zone de dépression au-dessus de la forêt, ça va aspirer l'air qui est au-dessus de l'océan, quelque part, voilà, pour le dire simplement. Et cet air qui est aspiré, après, ça va monter, ça va se refroidir dans la haute atmosphère. Bon, ça, c'est une hypothèse pour dire, en gros, quand vous avez une forêt proche des océans, vous avez une sorte de pompe plus grande que si vous aviez des cultures. Et pourquoi il y a une variation entre l'hiver et l'été dans les zones tempérées, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait plus ou moins de pluie suivant l'hiver ou l'été sur les zones boréales. Ben, c'est dû au fait que, ben, en hiver, quand vous avez des arbres caducs, ben, l'évapotranspiration baisse fortement par rapport à celle de l'océan. Et donc ça, c'est un peu... Voilà, c'est discuté actuellement, hein, mais ce serait un surplus d'humidité qui est apporté au continent, à travers les océans, avec le fait qu'il y ait des forêts à proximité. Ça, c'est vrai au niveau global. Et je termine là-dessus. Donc les forêts ont un rôle majeur sur le cycle de l'eau, localement, régionalement et globalement. Ça, vous allez le voir tout au cours, au long de ces interventions. Ce rôle peut être complètement perturbé par l'activité humaine. Ça, vous le verrez également. Je n'ai absolument pas parlé de changement climatique. Et évidemment, vous allez en parler plus tard, mais c'est quelque chose d'assez essentiel. Et je voulais vous situer là, juste sur ce graphe-là. Vous voyez les années, ça c'est les années, ça c'est l'anomalie de température par rapport à la période de référence dans les années 80. 2022, c'est là. 2022, en termes de température, on est déjà au-dessus des projections qui sont dans le futur avec des scénarios intermédiaires en termes d'émissions de CO2. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci pour votre attention. J'y allais un peu vite.
Merci beaucoup, Claude. On souhaitait bien poser les choses et les clarifier. Elles sont bien posées. Est-ce qu'elles sont clarifiées ? C'est un peu plus douteux et on comprend qu'il y a encore des interrogations, des doutes, des hésitations, des débats, peut-être des conflits d'experts. Je vais vous proposer qu'on passe la parole tout de suite à Patrick Lachassagne, qui lui est en vidéo, et on fera une discussion après ces deux interventions, parce que Patrick Lachassagne va...